Laudetur Jesus Christus.
Fin du jubilé des journalistes et des communicants avec le dimanche de la parole de Dieu lors de la messe. Le pape a exhorté à s'ouvrir et à méditer sur cette parole qui ne déçoit jamais. On y revient juste après les titres. Goma, cernée par les rebelles du M23, la population de la principale ville de l'Est de la RDC est à la merci des combattants soutenus par le Rwanda. Nous entendrons l'évêque de Goma, Monsieur Ngumbi, en appel à la communauté internationale. Trêve fragile au Proche-Orient, tout d'abord au Liban, où 22 personnes ont été tuées hier par l'armée israélienne qui a obtenu un nouveau délai pour évacuer le sud du pays. Et puis dans la bande de Gaza, après avoir bloqué le point de passage de Nazarim, Israël a permis aux Palestiniens de rejoindre le nord du territoire. L'horreur de l'extermination de millions de juifs et de personnes d'autres confessions au cours de ces années ne peut être ni oubliée ni niée. Le pape François a évoqué hier la journée de la mémoire dédiée aux victimes de la Shoah. Nous verrons dans notre dossier la nécessité de rappeler, de sanctuariser la place de cette histoire dans celle du monde. C'est à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, c'est par le dimanche de la parole de Dieu que le jubilé des journalistes et des communicants s'est achevé hier au Vatican. Le pape a ainsi présidé la messe en la basilique Saint-Pierre. Il en a profité pour conférer à 40 laïcs le ministère du lectorat. Dans son homélie, François a exhorté à s'ouvrir et à méditer sur la parole de Dieu qui ne déçoit jamais. Les précisions de Myriam Sanduno.
Vivante à travers des siècles, la parole de Dieu chemine avec nous et par la puissance de l'Esprit, elle agit dans l'histoire, a dit le pape. Jésus est la parole vivante et c'est lui qui parle, a souligné François, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. La Bible fait mémoire du Christ et de son œuvre et l'Esprit l'actualise dans notre vie. L'évêque de Rome a expliqué que lorsque nous lisons les Écritures, nous ne recevons pas seulement des informations sur Dieu, mais nous accueillons plutôt l'Esprit qui nous rappelle tout ce que Jésus a dit et fait.
Ci sportiamo con ardore al lieto annuncio di Cristo. Il Signore infatti non ci ha parlato come a muti ascoltatori, ma come a testimoni.
Répondons avec ardeur à la bonne nouvelle du Christ, car le Seigneur ne nous a pas parlé comme à des auditeurs muets, mais comme à des témoins, nous appelant à évangéliser en tout temps et en tout lieu, a affirmé François. Il a ainsi invité les 40 nouveaux lecteurs qu'il a institués au cours de la messe au ministère du lectorat à porter l'annonce missionnaire de l'évangile du salut à ceux qui ne la connaissent pas encore.
Myriam Sanduno, et lors de ses appels après la prière de l'Angélus, le Saint-Père a lancé plusieurs appels, donc il a ainsi dénoncé la guerre au Soudan, à l'origine de la plus grave crise humanitaire dans le monde et dont les conséquences dramatiques touchent même le Soudan du Sud, a-t-il dit, exprimant sa proximité aux populations de ces deux pays. Il les a invités à la fraternité, à la solidarité, à éviter toute violence et à ne pas se laisser instrumentaliser. François exhorte également les Belges à reprendre les négociations et la communauté internationale à tout faire pour acheminer l'aide humanitaire aux déplacés et aux réfugiés. Goma, cernée par les rebelles du M23. Les combats ont lieu maintenant aux portes de la principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo. La situation est si grave que le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence hier. Mais si la responsabilité du Rwanda est pointée du doigt par le Congo, l'ONU et par de nombreux pays, la déclaration onusienne finale n'en fait pas mention. La communauté des États d'Afrique de l'Est, elle, tente une médiation. Les présidents Tshisekedi et Kagame ont ainsi accepté de se rendre à Nairobi dans les 48 heures. Une initiative qui correspond à ce que l'évêque de Goma, Mgr Willy Ngumbi, appelle de ses vœux.
Je demanderai à la communauté internationale deux choses. D'abord qu'elle fasse tout pour empêcher que la guerre n'entre dans la ville de Goma. Ça, c'est vraiment mon cri de cœur, qu'on empêche la guerre, les affrontements d'arriver dans la ville de Goma. Et la deuxième chose, c'est la mobilisation des humanitaires pour vraiment venir en aide à cette population qui, pour le moment, est en situation de famine presque, surtout les déplacés de guerre. qu'on arrive quand même à ne pas oublier l'aide humanitaire pour cette population, que vraiment qu'il y ait cette mobilisation pour venir en aide à la population de Goma en ce moment de grande crise.
Monseigneur Ngoumbi, l'évêque de Goma, le Liban, de nouveau endeuillé. Hier, 22 personnes ont été tuées, 125 blessées dans le sud du pays, lorsque l'armée israélienne a ouvert le feu sur des centaines d'habitants qui tentaient de rentrer dans leur village encore occupé malgré l'interdiction d'Israël. Après ces incidents sanglants, la Maison-Blanche a annoncé la prorogation du délai du retrait israélien du territoire libanais jusqu'au 18 février. Le président français a, lui, de son côté, appelé les parties prenantes au cessez-le-feu au Liban à honorer leurs engagements dans les plus brefs délais. À Beyrouth, Paul Khalife.
La situation reste tendue dans le sud du Liban où les habitants s'apprêtent ce lundi à marcher sur leur village encore occupé par l'armée israélienne pour la deuxième journée consécutive malgré les appels à la retenue des autorités et de la classe politique. Des appels à la mobilisation ont été lancés pour organiser des rassemblements aux entrées de plusieurs localités, essentiellement situées dans les secteurs central et oriental de la frontière. Le Hezbollah a apporté son soutien au mouvement des habitants qu'il a qualifié de spontané. La foule qui a forcé dimanche les entrées des villages brandissait pourtant des drapeaux du parti chiite et des portraits de son chef Hassan Nasrallah, assassiné le 27 septembre par Israël. Ces événements ont pris de court l'armée libanaise qui a tenté dans un premier temps d'empêcher les habitants d'avancer vers les zones encore occupées avant de se joindre à l'élan de la foule. Les soldats libanais ont accompagné les convois des habitants sous le feu de l'armée israélienne et se sont déployés dans 18 villages qu'ils n'avaient pas encore atteints. Les dirigeants libanais se retrouvent ce lundi dans une situation peu enviable. Ils sont coincés entre l'annonce par la Maison-Blanche de la prorogation du délai du retrait israélien jusqu'au 18 février et la détermination des habitants à regagner leur village. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
La trêve est également fragile dans la bande de Gaza. Hier, Israël et le Hamas se sont accusés mutuellement d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu en cause les otages israéliens et le blocage du point de passage de Nazarim. Israël le bloquant, empêchant ainsi les Palestiniens de rejoindre le nord du territoire. Mais la situation s'est débloquée dans la soirée. L'armée israélienne a donc poursuivi son retrait du milieu de la bande, ce qui permet à des dizaines de milliers de familles déplacées de commencer à regagner notamment la ville de Gaza. La majorité à pied, dès ce matin, celle en voiture devant subir des inspections avant de passer, et ce depuis maintenant quelques minutes à peine. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
C'est en foule compacte et d'un pas précis que des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes ont commencé ce matin à franchir le couloir militaire installé par l'armée israélienne et qui coupait en deux la bande de Gaza dans le sens de sa largeur, après avoir attendu depuis samedi soir, dormant à même le sol, que les forces d'occupation israéliennes se retirent. Ces familles déplacées regagnent la ville de Gaza et la région nord, soumise à ces derniers mois à un siège total de l'armée israélienne qui voulait la vider de sa population. Aujourd'hui, les habitants de cette zone vont finalement rentrer chez eux, retrouver leurs proches encore vivants dont ils ont été séparés depuis un an, tenter de retrouver les corps de ceux qui ont été tués, encore coincés sous les décombres, et malgré l'ampleur sans précédent des destructions, s'installer sur les gravats de leur maison. L'aide humanitaire interrompue ces deux derniers jours va également pouvoir à nouveau être acheminée dans cette partie de la bande de Gaza, dont les habitants qui y étaient restés ont particulièrement souffert de la faim. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et c'est dans ce contexte que le président américain Donald Trump a proposé de faire le ménage dans la bande de Gaza et de transférer les Palestiniens vers la Jordanie et l'Égypte de manière temporaire ou permanente. Une proposition immédiatement rejetée par toutes les parties concernées. Le président américain, à l'origine aussi d'une crise avec la Colombie ce week-end, Donald Trump avait pris des sanctions contre Bogota qui refusait de récupérer tous les immigrés colombiens illégaux expulsés des États-Unis. Finalement, un accord a été trouvé sur le rapatriement de ces Colombiens. La Colombie évoquée par le pape lors de l'Angélus, François y observe avec inquiétude les affrontements dans la région du Catatumbo entre des groupes armés qui ont causé la mort de plusieurs dizaines de personnes ces derniers jours, ainsi que le déplacement de plus de 30 000 personnes. Aucune surprise au Bélarus. Le président Alexandre Loukachenko a été réélu hier pour un 7e mandat de 5 ans. Il a recueilli pas moins de 87,6% des voix. L'opposition n'était évidemment pas autorisée à participer à ce scrutin. Depuis l'élection précédente, en 2020, la répression contre les opposants n'a pas permis de vrais débats. La chef de file de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, forcée à l'exil et dont le mari est emprisonné dans le pays, a de son côté dénoncé depuis Varsovie une farce qualifiant le dirigeant de criminel. L'horreur de l'extermination de millions de juifs et de personnes d'autres confessions au cours de ces années ne peut être ni oubliée ni niée. Déclaration du pape hier midi lors de l'Angélus, alors que le monde commémore aujourd'hui les 80 ans de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. François a appelé à travailler ensemble pour éradiquer le fléau de l'antisémitisme ainsi que toutes les formes de discrimination et de persécution religieuse. Construisons ensemble un monde plus fraternel et plus juste, en éduquant les jeunes à avoir un cœur ouvert à tous dans une logique de fraternité, de pardon et de paix, a-t-il poursuivi. Cela passe par les commémorations officielles, certes, en cette journée de la mémoire qui rappelle la mort de 6 millions de juifs tués par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par l'enseignement pour Tal Brutman, spécialiste de la Shoah. Il est en effet indispensable de rappeler, de sanctuariser la place de l'histoire de la Shoah dans celle du monde.
Évidemment que la Shoah est une page de l'histoire et pas une des moindres. Elle est largement déjà inscrite aujourd'hui dans l'histoire commune de l'Europe et parfois au-delà de l'Europe. Mais il y a aussi un élément qui est très important à cet égard, c'est que il y a une volonté qui se manifeste aujourd'hui par certains de vouloir, entre guillemets, tourner la page, passer à autre chose. Mais dans le même temps, l'Europe dans laquelle on vit, les États dans lesquels on vit en Europe, qu'il s'agisse de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, ce sont des États qui se sont construits à partir de 1945 par rejet de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Union européenne s'est construite par rejet d'Auschwitz, littéralement, avec l'élection de Simone Veil comme première présidente du Parlement européen. Donc ça montre à quel point ce sujet-là est devenu central dans nos sociétés, et pas uniquement dans nos sociétés, mais dans nos États. Donc il est présent, il va rester présent, parce qu'il est constitutif de l'espace dans lequel on vit.
Depuis la célébration en 2020 du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, l'attaque du 7 octobre 2023 puis le conflit entre le Hamas et Israël n'ont-ils pas comme libéré la parole antisémite dans le monde ?
Ça a servi de révélateur puisque ceux qui travaillent sur l'antisémitisme avaient déjà constaté tout ce qui s'est cristallisé et révélé en plein jour à partir du 7 octobre. Mais je me permettrai de rajouter qu'il y a un deuxième événement qui est très important, c'est l'invasion de l'Ukraine, alors qu'il avait commencé avant avec l'annexion de la Crimée, qui là aussi s'inscrit dans la suite de ce qu'on a voulu croire de la Seconde Guerre mondiale, une Europe apaisée. Et on voit qu'il y a une guerre qui fait rage sur le continent européen avec notamment la reprise de tout un ensemble de discours, notamment par la partie russe, sur le fait qu'ils luttent contre des nazis, etc., etc. Donc, on a deux événements majeurs, en fait, qui montrent qu'il y a des choses qu'on pensait acquises, le recul de l'antisémitisme, la paix en Europe. Ce n'est pas le cas, ce qui montre qu'on est face à des combats de tous les instants, qu'il faut rester vigilant, qu'il faut continuer à penser à comment contrer cela, parce qu'on a pour plein de raisons pensé que la lutte contre l'antisémitisme était quelque chose qui était en voie d'être gagné, alors que c'était tout simplement l'absence de vision de choses qui ne se trouvaient pas sous nos yeux. De fait, il va falloir réfléchir à ce qu'il faut continuer à faire, non pas comme un constat d'échec, mais comme un constat de « il faut poursuivre le combat contre l'antisémitisme ».
Dans cette lutte contre l'antisémitisme, la Shoah est souvent invoquée comme une espèce de totem auquel on se réfère. Quelle place doit avoir cet événement dans l'histoire de l'antisémitisme ?
La Shoah a écrasé énormément de choses en matière de compréhension et de représentation. C'est-à-dire que la Shoah est devenue un symbole qui dépasse très largement l'événement à proprement parler en raison de sa puissance, de sa violence, et que toutes les violences anti-juives ne renvoient pas à la Shoah. Les violences anti-juives pâlissent souvent à cause de la Shoah, je m'explique. Par exemple, on estime que le crime de Vichy, c'est d'avoir collaboré à la solution finale. Alors que le crime de Vichy commence dès octobre 1940, quand l'État français met en place une législation antisémite, ce qui est suffisamment violent, indécent et problématique. Donc évidemment que la Shoah n'explique pas tout. Et de fait, la Shoah ne peut pas servir de modèle pour toutes les violences qui se sont perpétrées dans l'histoire. On est face à un événement extraordinaire au sens où le projet nazi tel qu'il a été réalisé, mais tel aussi qu'il était projeté, c'était pas uniquement de s'arrêter aux limites du continent européen. Les Allemands ont essayé et même commencé à mettre en œuvre la destruction des Juifs en Tunisie, puisqu'ils avaient occupé la Tunisie fin 1942. Donc on est face à un projet de destruction totale, une annihilation de toute une population, non pas à l'échelle d'une région ou même d'un pays, mais à l'échelle de continents entiers.
Interrogé par Jean-Benoît Rel, Tal Brutmann était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous.